premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionce dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Café les mecs, ça va saigner. Pas de commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pios. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. On va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Café les mecs, ça va saigner.
Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'écoute de l'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Donc l'Envolée, c'est une émission et un journal qui relaie la parole des prisonniers et de leurs proches, quel que soit le lieu d'enfermement, que ce soit donc les tôles, les centres de rétention administrative pour les personnes sans papier ou aussi les HP. Et donc on rappelle que le journal est gratuit pour les prisonniers et les prisonnières, donc n'hésitez pas à abonner vos proches ou nous écrire pour vous abonner. Je rappelle les contacts, vous pouvez nous écrire à fpp-l'envolée 19, 1 rue de la Solidarité, Paris 19e, pardon. Nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Sinon, appelez en direct, là, pendant l'heure et demie qui vient, au 01 40 05 06 10 ou toute la semaine sur le portable 07 53 10 31 95. Et on rappelle qu'il n'y a pas les applications sécurisées ou pseudo-sécurisées
sur le téléphone maintenant.
C'est super, wow. On va pouvoir le... Donc il y a Signal, l'échange. Vous pouvez nous écrire sur Signal.
Gros upgrade.
Trop bien.
Parce que je parle très bien anglais.
C'est super, Serge. Du coup, ce soir, autour de la table, il y a Serge.
Bonjour tout le monde.
Il y a Rose.
Salut.
Il y a Jade.
Salut.
Et Jade.
Salut.
Et Inès au bocal.
Salut.
Et Louise, voilà. Donc aujourd'hui, à l'émission, on va commencer par vous faire un petit update sur...
Oh non, ça va être affreux.
Par rapport à ce qu'on avait parlé à l'émission de la semaine dernière, où vous avez parlé de la censure et de l'audience au tribunal administratif qui devait avoir lieu ce matin et qui n'a pas du tout eu lieu ce matin. Donc on vous parlera de la dernière petite surprise de l'administration pénitentiaire là-dessus. Et ensuite, on vous passera un enregistrement d'un copain qui a fleuri. En deuxième partie d'émission, on va passer un enregistrement qui a été fait par une copine qui revient sur la marche en mémoire d'Idir qui a eu lieu dimanche 8 septembre dernier. Et donc pour rappel, mais je pense que ce sera expliqué dans l'enregistrement, Idir, c'est un prisonnier qui est mort au mitard de Lyon-Corbat le 9 septembre 2020. Et donc c'était une marche en sa mémoire, puisque ses proches continuent à se battre pour obtenir la vérité sur sa mort. Et enfin, si on a le temps, on essaiera de vous parler un petit peu de ce qui se passe en ce moment en Martinique et à Mayotte. On commence par le TA.
Bah ouais, la grosse surprise du jour. Donc bah ouais, on avait un peu déroulé la semaine dernière sur ces trois numéros qui avaient été censurés, voilà, et notamment le numéro dans lequel on relatait le meurtre de Sambali par les surveillants de la pénitentiaire de Saint-Martin-de-Ré. Et donc on avait porté plainte au tribunal. À l'administratif, donc en réalité au tribunal administratif ça s'appelle un recours en excès de pouvoir pour faire en sorte que les journaux ils soient plus censurés. Alors on savait que ça avait déjà une conséquence limitée sur le fait, parce qu'on va pas renvoyer les numéros, enfin c'est rare qu'en tout cas à l'intérieur on nous demande des numéros qui datent d'il y a 4 ans et tout ça, mais donc c'était principalement pour essayer d'éviter que ça se reproduise et tout, voilà. Mais et donc l'administration pénitentiaire, ce qu'on vous disait la semaine dernière, c'est que elle faisait en sorte qu'en fait on parle assez peu de cette histoire, et donc notamment ne s'expliquait même pas sur les raisons pour lesquelles ils nous avaient censurés. Si, tout compte fait. Voilà, on a obtenu une réponse à quelques minutes de la fermeture du bureau des juges, juste au dernier moment, dans les 15 dernières minutes. Ils ont envoyé le document à 17h45. Ils avaient, c'était leur dernier jour pour pouvoir envoyer. Sinon, ils pouvaient pas se défendre. Enfin, ils se défendaient pas. C'était voilà. Donc, c'est encore un bon exemple, parce que donc ça, ils savaient qu'automatiquement, ça allait entraîner un report de l'audience. Donc, c'est toujours le même truc. Est-ce que c'est parce que en fait ils ont commencé à se faire appeler par quelques journalistes leur demandant mais c'est quoi cette histoire de censure et tout ça? Est-ce que, enfin voilà, de toute façon on saura jamais et on n'a pas envie d'être dans leur tête de zinzin. Mais en tout cas c'est très clair sur le fait que on devait avoir une audience, que ça fait plus de 3 ans que les numéros ont été censurés maintenant, et que ça va décaler encore au moins de 6 mois, voire probablement un peu plus. On va pas dès maintenant en fait revenir en fait sur les arguments qui foutent et tout ça, mais en tout cas sachez que on s'est bien marré. On aura l'occasion d'en reparler et tout. Mais voilà, le truc qui est quand même un petit peu rigolo sur cette histoire, c'est le fait qu'en fait, juridiquement, le fait qu'ils aient pas répondu, ça fait qu'il y a 2-3 trucs qui sont considérés comme étant vrais juridiquement. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'on avait écrit que Dupond-Moretti défendait des positions de facho. Et parmi d'autres choses, voilà. Et donc, normalement, elles doivent être vraies en fait juridique. Alors, j'avoue, j'ai pas très très bien compris le bail du truc et tout ça, et ça a l'air d'être un peu tarabistouille de juristes, mais en tout cas nous ça nous amuse de savoir que juridiquement, parce que vous savez quelle idée on a de la vérité judiciaire, mais donc se dire que juridiquement eux sont considérés trucs, on va je pense malheureusement très rapidement voir que ce qui normalement doit être considéré comme juridiquement vrai risque dans les faits de ne pas s'appliquer quand on est le vilain petit canard.
Et donc j'ai juste pas compris pourquoi c'était juridiquement vrai. Enfin, c'est quoi qui
Ben moi non plus. C'est un truc. C'est un bail.
Juste on a raison.
C'est un bail sur le fait que quand ils répondent pas dans les temps, ça veut dire qu'ils admettent que les faits soient juridiquement vrais ou un truc.
Implicitement, les faits sont vrais, mais ça les empêche pas d'argumenter sur le droit.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, donc ça voudrait dire que ce qu'ils nous reprochent, c'est de la diffamation. Sauf qu'en fait, quand tu dis quelque chose de vrai, il peut pas y avoir de diffamation. Enfin bon, voilà. Mais sauf que, il y a ce qui est écrit dans la loi et comment elle va être appliquée par les juges. Et donc, en fait, on n'est pas trop naïfs non plus.
Donc, même s'ils ont répondu à la dernière minute, ça ne change pas ce truc-là.
Ah non, 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 non. Ils devaient répondre en fait au bout de 3 mois au premier truc qu'on avait envoyé ou non. Une fois qu'ils avaient été mis en demeure par les juges, je crois. Je sais plus. J'avoue après, voilà, je suis pas baveux quoi.
Oui, puis je pense qu'il faut rappeler quand même que c'est une stratégie du temps long. Enfin, l'administration pénitentiaire connaît très bien le droit administratif et que en fait. De faire des reports comme ça, ils savent très bien qu'après tu vas pouvoir répondre, quand tu vas pouvoir répondre, quand tu vas réavoir une date d'audience, ça va reprendre, enfin juste les dates d'audience au TA en ce moment, ils sont très longues, donc en fait ça permet aussi de diluer quoi. Et c'est tout, voilà, c'était juste pour revenir sur cette stratégie du temps long quoi.
Bah oui, en tout cas ça remet quelques mois dans la vue avant de pouvoir avoir une autre audience, ce qui serait pas du tout le cas s'ils avaient répondu avant quoi.
C'est
donc,
ça, clairement.
Ça n'a pas l'air d'être fait par hasard, quoi.
Et puis peut-être juste pour un truc, c'est que de manière générale, ils font ça. C'est vraiment un truc commonement récurrent. Je me souviens plus qui ici était venu à l'Orient, qui était allé à l'audience pour l'isolement de Libreflow. Voilà, mais ils avaient même jamais répondu. Genre de truc. En fait, globalement, pour nous, on est à l'extérieur et tout ça. Les conséquences, elles restent quand même globalement assez minimes. Comme dit, nous, franchement, ça nous fait plutôt rigoler cette histoire et tout. Et en fait, on va pas se prendre la tête. Mais sauf qu'en fait, c'est par ces voies-là que doivent passer l'ensemble des recours de tous les prisonniers et toutes les prisonnières de France. Et en fait, à chaque fois, c'est exactement la même stratégie qui est mise en place là ici pour nous, qui est de faire en sorte que ça soit jugé le plus tard possible. Donc pour Libreflow, c'était un moment où il était déjà sorti, en fait, et ça a été jugé a posteriori comme étant, en fait, il avait été mis à l'isolement, et voilà. Et en fait, c'est le cas de manière illégale, et c'est le cas pour beaucoup de prisonniers. Et donc, c'est vraiment une stratégie judiciaire d'utiliser le temps long. Voilà. De la même manière qu'en fait l'État, quand il va interdire des manifestations, il va faire exprès de prendre le décret, l'arrêté d'interdiction pile poil au dernier moment pour qu'il n'y ait plus le temps de faire des recours possibles, genre de truc. Et donc c'est jouer vraiment avec les temporalités de la justice pour parce que tant qu'en fait c'est pas passé devant un juge, les trucs ils continuent à s'appliquer. Et voilà. Et en fait, au lieu que ça devrait être l'inverse. En fait, une fois que tu commences à dire, bah non, en fait, là ce que vous faites c'est un excès de pouvoir. On arrête le truc puis on attend de voir si le juge tout ça. Et ben non, en fait, ça se passe à l'inverse. Ouais. Et donc eux c'est les seuls à être toujours dans leur bon droit tout le temps par intention quoi. Voilà.
On le dit souvent aussi quand même que ce truc de temps long, c'est aussi que en fait, la plupart des prisonniers qui font des recours au TA, ça va être jugé après leur sortie, voire comme on l'avait vu là au truc de la Cour européenne des droits de l'homme quand on était revenu sur ce qui s'était passé à Condé en 2019, après que les gens soient décédés, quoi, dans le cas de Romain, donc c'est quand même chaud.
Non, pour Romain, ouais, c'était... Ça fait vraiment... Ils le savent, en fait, enfin, ça fait vraiment partie de la stratégie. Voilà, de la même manière, en fait, pour Kamel Daoudi, en fait, pour que ça arrive jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, en fait, l'État a vraiment ce rapport-là à la justice de faire traîner. Voilà.
L'État et toutes les administrations qui vont avec. Ouais. Quoi.
Et ce qui est ouf, c'est que d'un côté, tu vas avoir l'État qui va reprocher aux avocats des narcotrafiquants, soi-disant, de faire en fait des procédures, de faire des procédures, enfin demander d'appliquer le droit et tout ça pour être sûr que ça, en disant l'objectif c'est pas de faire appliquer le droit et d'arriver à la vérité judiciaire, mais c'est de faire ralentir la procédure. Mmh. Et de l'autre côté, en fait, lui fait ça toutes les 30 minutes, quoi. Mmh. Donc voilà. Mais donc, on vous tiendra au courant des prochaines nouvelles et de l'envoler contre le reste du monde. Mais non, en vrai, on rigole parce que franchement, ouais, enfin, voilà. Mais voilà, on se dit que s'il y a un baveux qui a dû se faire chier à écrire pendant 30 minutes le truc, voilà. On a eu d'autres nouvelles. En tout cas, on a un poteau. De Fleury qui nous a envoyé un petit message qui nous a demandé de le passer. Voilà, normalement il nous écoute, donc déjà on lui passe un gros big up et on passe aussi un gros big up à tous les gens à Fleury qui ont allumé la radio là. Normalement le message il est un peu passé dans la cour de promenade. Et puis on en discute juste après, plein de force.
Moi j'envoie un message question de conditions réelles et actuelles de détention. Je peux faire part qu'il y a une surpopulation avec la politique qui a été menée qui est atroce. Là concrètement, le médical il prend personne en charge. Les médecins se foutent de notre gueule quand on envoie des courriers. Donc il vient quand ça se voit de manière au ventre, on ne répond pas, on prend en charge les violences de l'administration pénitentiaire face aux détenus. Elle commence dès les arrivants. Moi, en un mois de détention, j'ai pu constater, et de manière physique et visuelle devant moi, il y a eu 4 violences dès les arrivants, 2 jeunes de 19 ans qui se sont fait baffer. Aux arrivants, ils ont mis une personne qui était complètement détruite au cacheton, donc ils sont rentrés dans sa cellule éclatée. C'est atroce. Les conditions de vie dans les cellules, là maintenant ça se passe à 3, là ils sont en train de surcharger tous les bâtiments à 3 en cellule. Il n'y a aucun moyen de te communiquer avec l'administration pénitentiaire, étant donné que le surveillant, il t'ouvre la porte quand tu lui demandes, la seule réponse qu'il donne, c'est j'y pense, j'y vais voir. Et en réalité, quand t'envoies des courriers à répétition, le SPIP, tu le vois pas. Mais bon, encore, le SPIP, c'est social, on va dire que ça prend du temps, ok. Mais l'administration pénitentiaire, quand tu les préviens que ça va pas en cellule, quand tu les préviens que tu peux pas te toucher parce que les murs, ils sont gratinés de peinture et de merde, ils ont rien à foutre, ils te referment la porte. Quand tu leur parles que le codé, ils parlent pas français, il n'y a aucun courrier administratif, ils savent même pas comment gérer ta situation, que le SPIP le prend en charge. Le surveillant, il dit, ouais, mais toi, tu parles avec lui. Tu peux rien faire concrètement. Le surveillant, ils sont là en train de te faire croire qu'il y a un imaginaire, c'est complètement dictatorial. Ils disent marche au milieu de la nuit, il n'y a pas de ligne dans le couloir, à Curie-Mérogis. Tu marches dans les couloirs, la seule chose que tu vois, c'est des affiches qui sont relatant des détenus condamnés, soi-disant de violence. Ils n'émettent pas, alors aujourd'hui, on ne donne pas la parole aux détenus, et on ne peut pas voir la réalité des choses, on ne peut pas voir la réalité qu'au mitard, à cette heure-ci, il y en a trois personnes qui sont sous le traitement médicamenteux, sous leur dossier disciplinaire, il y a bien marqué qu'ils sont suicidaires. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on les laisse se tuer? Est-ce qu'on est complice de ce meurtre? Ou alors, comment ça se passe? Parce que quand t'as pas de famille, concrètement, t'as pas de famille, t'as pas de moyens, t'as pas d'argent, tu connais même pas la loi, comment tu te défends? Comment tu te défends? Si ce n'est que par tes bras, si ce n'est que par l'intention de vouloir émettre le fait que tu vas pas bien. Alors, d'aujourd'hui, ces enculés ne répondent même pas aux demandes. Tu tapes à la porte, et ils viennent, ils disent, arrête de taper. Et après, c'est eux qui tapent à la porte la nuit, ils disent, salut, t'arrêtes de taper. Ils utilisent des cachets à travers la porte de gens pour les calmer. Ça se passe comme ça concrètement. Concrètement, t'arrives en une heure, on te donne une ordonnance avec une cachet pour que tu dormes. Et pour un vrai soin médical, pour des problèmes physiques qui sont d'urgence, on ne prend pas en charge. L'administration pénitentiaire se fout de votre gueule. Elle monte en pression la population pénale, tout simplement pour acter des faits à la télé et pour faire monter la pression des autorités pour dire qu'ils ont encore besoin de moyens. Concrètement, moi, j'ai même pas de chaise pour m'asseoir dans ma cellule. Ça fait un mois et demi que je demande. Et j'ai toujours pas accès à la cabine téléphonique. C'est pour ça que j'ai été obligé de prendre un téléphone et de communiquer. Parce qu'alors aujourd'hui, mes boîtes, la loi et mes droits, je peux même pas les revendiquer de manière normale. Des courriers, j'ai envoyé des courriers à la direction interrégionale pénitentiaire pour revendiquer le fait que je faisais appel sur une décision de la commission de discipline à laquelle il n'y avait ni directeur, ni assesseur, ni avocat. Et j'ai quand même été condamné à du mitard. Je revendique cette affaire, ils n'envoient pas le courrier. Comment, quand tu passes un détenu en France, comment t'expliques qu'à partir de là, il n'existe plus? Il n'y a plus de droit, il n'existe pas, tes courriers, on ne les envoie pas, des personnes, et on ferme la porte. À un moment donné, non. À un moment donné, t'es obligé d'émettre de la violence. Parce que par ça. Et juste le fait de ça, ils s'en servent contre la population pénale. Alors qu'à l'heure d'aujourd'hui, quand j'explique à des détenus qui peuvent se défendre, qui peuvent demander un droit juridictionnel et prendre des avocats, je reçois une pression de l'administration pénitentiaire. Je reçois des fouilles, on me retire les cantines, on ne me les envoie pas, mon courrier à l'avocat, il n'est pas envoyé. Et après, on nous parle du téléphone, on nous parle du trafic, mais attends. L'administration, elle profite bien de ce trafic, bien parce que ça calme, et les médicaments qu'on donne, alors d'aujourd'hui, c'est foison comparé à l'extérieur, c'est foison, c'est que des traitements médicamenteux, anxiolytiques, neuroleptiques, antipsychotiques et somnifères, c'est comme ça qu'on fait, la personne qui n'a pas de famille, on le fout, la personne qui a un peu de famille, mais qui n'a pas de ressources, on le dégage à une charge de travail, histoire de lui faire un semblant de prolétariat qui lui rapporte 200 euros, et sur lequel on mange tout.
Merci beaucoup en vrai de ce coup de fil et puis enfin de ce vocal et d'avoir décrit tout ça. C'est difficile de rebondir sur tout ce qu'il y a parce qu'en fait tu décris c'est quoi une maison d'arrêt en ce moment, voilà, ce qui est vraiment violent, et puis tous les impacts en fait de sur-enfermement, voilà, et qui en fait se matérialise à plein d'endroits différents, quoi. Donc, ça va de la violence des matons que tu as vu là sur des jeunes et tout ça. Généralement, en plus des primos et tout ça, et qui arrivent directement, en fait, ils matent assez rapidement. Là-bas, à Fleury, les premiers qui arrivent, quoi, et tout. Et voilà, après, il y a ce fait là de passer en triplette absolument partout, où c'est vraiment l'enfer, quoi. Et puis le fait que les matons ils fassent absolument rien, quoi. Et au contraire, enfin, qu'ils ralentissent tout, mais qu'ils ralentissent parce qu'ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. En fait, c'est absolument dégueulasse. Voilà, que ça soit les violences, soit le fait que les personnes ne soient pas soignées, soit, enfin voilà, en fait, ça va nulle part. Et donc, en fait, tout ce que font les matons, c'est faire en sorte que ça ne sorte pas. Voilà. Et c'est cool d'en parler, quoi. Voilà. Et donc, bon, bah voilà, comment on traite. On fout des cachetons à tout le monde.
Oui, puis surtout, ils viennent nous parler de soi-disant choc carcéral quand t'arrives aux arrivants. En fait, c'est le choc carcéral quand tu te fais défoncer par des matons. C'est sûr qu'il doit être assez violent quand t'as 19 ans. C'est ça, enfin, ça fout encore plus une fois le seum d'avoir ce genre d'histoire et tout. Et, bah, en vrai, c'est merde de faire sortir la parole. Et c'est, enfin, je pense que c'est super important, quoi.
Ouais, on parlait du temps long là juste avant, ça c'est aussi ce truc de ouf de genre jamais filer les papiers, pas envoyer le courrier, qu'en fait le moindre truc que tu veux faire, que tu veux demander, ou même le moindre contact que tu essayes d'avoir pour obtenir quelque chose, ils mettent des bâtons dans les roues pour tout, quoi. Et donc ils font attendre, et c'est aussi ça qui fait péter des câbles. Et ouais. Donc ce truc de genre pas envoyer le courrier quand tu demandes un truc, de pas avoir une chaise au bout d'un mois et demi, c'est quand même un truc de ouf.
C'est ça, en fait ils bloquent pour te décourager, et genre même sur les moindres petits trucs auxquels tu peux avoir droit, enfin ouais, j'allais dire la chaise aussi, mais c'est juste ils essaient de te décourager pour que juste genre tu puisses jamais avoir ça, et que en fait après aussi les autres personnes qui arrivent, bah juste elles vont te demander, enfin ça c'est encore quand tu parles, tu peux même pas parler français ou écrire français, en fait comment tu fais, quoi.
Ça, c'est important, ce truc des personnes en prison qui sont enfermées et qui parlent pas français, parce que le peu que tu peux faire quand tu parles un peu français, bah, ces prisonniers-là, ils peuvent pas le faire. Et donc, c'est quand même hyper chaud. Parce que là, le copain, il parlait de ce truc du social, d'aller voir les SPIP et tout. Bah, en fait, souvent, les personnes qui parlent pas français juste peuvent rien demander à leur SPIP. Il y a rien qui fonctionne, quoi. Ils sont juste hyper isolés. Et en fait, le seul truc qui leur permet de tenir un petit peu ou de faire des démarches, c'est parce qu'il y a d'autres prisonniers qui vont écrire les papiers à leur place, faire des sortes de traductions avec les SPIP et tout. Donc c'est quand même un truc hyper important, quoi.
Non, mais c'est délirant. Puis, bah, quand on voit la manière dont ils s'occupent des papiers, enfin, de toute façon, tu te demandes, enfin, c'est quand même ouf que à ce point-là, qu'ils transmettent pas les papiers, quoi. C'est là, à ce niveau-là, c'est quand même délirant, quoi. Et ce bail de j'y pense, je vais voir, quoi, la part des matons, c'est, mais c'est le truc le plus, enfin, la première fois tu dois dire bah ouais, ok, vas-y, ça marche. La deuxième fois tu fais ok, tu me l'as déjà fait une première fois, voilà. Au bout de la cinquième fois, mais ouais, je pense que t'as vraiment envie de devenir très très violent, parce qu'en fait on parle pas de que dalle, quoi. Enfin, en fait, voilà, on parle du fait de pouvoir avoir accès aux soins, on parle de voilà, mais donc voilà, c'est un truc de ouf. Et donc ce truc de laisser et dire ouais, j'y pense, je vais voir, en fait, ce qui veut dire on verra dans deux jours et tout ça. Et voilà, et le truc aussi, c'est que bah, y a pas mal de jeunes et tout ça, voilà. Et donc ils ont moins l'habitude aussi de savoir qu'en fait bah t'as des droits, que t'as le droit de les exprimer, les demander, les revendiquer, et autres, que bah bien sûr t'en payes souvent les frais et tout ça, mais qu'en fait t'es pas que dans les mains de la pénitentiaire, enfin voilà, et que tu peux avoir des petits espaces et tout, que bien sûr c'est des espaces qui sont risqués, tout ça, hein, attention, mais voilà. Et donc de le fait de l'exprimer, de l'expliquer aux jeunes et tout ça, bah après derrière, bim, tu t'en prends encore plus plein la gueule, quoi. Donc voilà, et c'est pour ça aussi qu'on dit toujours cette parole là elle est essentielle, voilà, et surtout elle est extrêmement risquée pour les gens à l'intérieur qui prennent ces risques, quoi.
Et ce truc, c'est que en fait quand il y a aucun papier qui partent, ce truc des matons qui disent je vais voir, en fait c'est que t'as que des échanges oraux, enfin à l'oral en fait, avec les matons, qui vont être à chaque fois des matons différents, et qui vont en fait aussi te dire des trucs contradictoires, Et c'est aussi ça qui te fait bien galérer aussi dans l'attente, essayer de faire un peu ton truc quand il n'y a aucun papier qui part. Et en fait, même quand ils partent, c'est quand même assez fréquent qu'ils puissent être perdus, ou qu'on ne sait pas trop où ils arrivent, ou en fait, ils n'ont pas trop de réponses. Donc en fait, tu es juste dépendant de ce maton qui va te dire un jour on va voir, un jour oui, ça arrive bientôt, un autre jour en fait, non, ça n'arrive pas. Ou peut-être de croiser un gradé ou, je sais pas, la directrice de la maison d'arrêt à un moment qui va te dire encore un autre truc, quoi. Et en fait, tu ne peux pas du tout t'appuyer sur ça après pour essayer d'obtenir quelque chose, quoi.
Oui, puis c'est... Enfin, là, bon, je veux aussi revenir sur le truc de... C'est quand même un délire, ce truc de commission, là, sans directeur, sans rien, enfin, sans personne, globalement. Enfin, je sais pas qui y avait, du coup. Mais c'est vraiment ce truc de... Enfin, il y a plus de droit à l'intérieur de l'attention, il y a plus de procédure. Enfin, c'est-à-dire, c'est quand même fou d'en arriver à des commissions où tu prends du mitard. Et, enfin, t'es censé quand même... C'est des trucs réglementés, hein. Enfin, t'es censé avoir telle personne. Enfin, ça peut pas... Et du coup, bah... T'en es voué à faire un recours où tu sais très bien, mais en fait, t'as fait tes jours de mitard, en fait. Hein, et comme d'hab, c'est ce qu'on disait sur le truc du temps long. Bah, t'as fait tes jours de mitard, t'as pris ta peine, entre guillemets, et maintenant, bah, voilà, tu dois faire un recours qui va prendre encore on sait pas combien de temps. Ça se trouve, ils vont jamais te répondre, ça se trouve, le papier, il est pas arrivé. C'est quand même du délire, ce truc. Enfin.
Bah, puis là, sur ce qu'il disait au mitard, là, enfin, ça fait quand même vachement écho au procès qu'on a vu du mec à Fresnes, là. Voilà, où il y a trois personnes qui sont, je sais pas comment dire, mais en tout cas, le médical les a dit qu'ils étaient suicidaires, quoi. Et ils sont encore à l'intérieur, quoi. Et ils sont encore au mitard. Donc, normalement, c'est la raison pour laquelle tu dois sortir directement. Donc, on disait bien pendant ce procès, en fait, que c'était quand même vraiment du gros foutage de gueule, que la directrice de l'atoll, elle dise « Ah, bah, si j'avais su, je l'aurais sorti. » Parce qu'en fait, on sait qu'ils le font jamais. Et là, c'en est encore la preuve. Voilà. Mais c'est un truc de ouf, comme à chaque fois, enfin à aucun moment ils le font, quoi. Faut que ça soit soi-disant un truc bien particulier et tout. Et ça, c'est vraiment la responsabilité de la pénitentiaire, quoi, qui est délirante. L'autre bail aussi, qui est quand même complètement ouf, c'est que tu marches dans les trucs d'affiches des condamnés et tout ça là. Enfin, ça a l'air d'être vraiment un endroit où, enfin, on te parle. En fait, on te dit que le mitard est sur ta gueule, enfin, est au-dessus de ta gueule toutes les 4 secondes, quoi. Donc là, on n'oublie pas de te le rappeler tout ça. Donc ça rappelle encore, bah, à quoi sert ce putain de mitard, en fait, et tout. Voilà. Puis après, ça rappelle aussi, enfin voilà, quand il dit, bah, comment tu fais quand tu peux pas avoir de contact à l'extérieur pour te défendre. Enfin, tu vois, c'est aussi un truc, bah, qui s'appelle, qui se rappelle à nous à l'extérieur, en fait, d'être là pour pouvoir soutenir ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Voilà. Et donc, c'est important de relayer encore ces paroles et tout, et puis s'assurer. Enfin, voilà. Enfin, en tout cas, parler de ces conditions qui sont particulièrement trash à Fleury, qui, rappelons-le quand même, est la plus grosse tôle d'Europe, quoi. Mmh. Donc voilà. Ouais, bah, en gros, plein de force à vous, à toi, et tout ça, parce que on sait à quel point c'est chaud, les maisons d'arrêt, surtout en ce moment, avec l'augmentation du nombre de prisonniers et de prisonnières aussi. Voilà. Et bah, n'hésitez pas, en tout cas, s'il y a besoin de continuer la discute et tout. Voilà. On poursuit avec un petit enregistrement.
Non, on passe un coup de musique avant, peut-être.
Ok.
Toujours dans le ghetto, pas besoin d'un guetteur, je revends des soldes, j'avais confiance en moi. Cette vie là j'en peux plus, mon grand frère m'a dit dans la musique j'ai confiance en toi. Ils ont pas cru en moi, ils ont pas cru en nous. Ils nous ont négligé toute l'année. J'ai acheté des clubs, j'ai acheté des feuilles, j'ai appelé Sarkozy, on s'est mis à planer. Bagarre on connaît, blagave on connaît, gardave on connaît, mais on n'a pas Kuma, cette pute on la connaît. Eux ils nous connaissent, nous on les connaît pas, eux c'est des comiques. On fume la patate, remballe ton caillou. Sur ma mère j'étais dans le bac, moi j'ai obtenu mon bac sans ouvrir un cahier, j'ai fait le tour et je les vois pas dans la cahier. Maman est sévère, mais son fils goûte à la prison. Pour lui elle sera toujours présent, elle fait tous les parlus. Pas besoin de parler, elle sait que son fils c'est pas une tarlou. Je connais pas la chance, donc je roule un trois feuilles. J'espère la croiser en étant défoncé. 2020 je suis venu remporter les trophées, je suis le boss de la ville, personne
personne m'empêche de foncer. Moi je suis gentil, demande à deux postes. Quand je suis sur les nerfs, je me roule un deux pots. BRK ben des pressions depuis le départ. Elle baissait la base, elle baissait la compo. J'ai beaucoup de copines, pas beaucoup de copains. Sur ma mère y'a trop de négros qui me copient. Sur ma mère y'a trop de négros qui me copient. Pourquoi j'ai fait ceci, pourquoi j'ai fait cela, pourquoi j'ai coupé le touchy pour mettre dans le cello. Pour qui elle m'a laissé, pourquoi elle m'a laissé, c'est malaisant, une journée sans rien encaisser. J'étais bon calibré pour eux étant petit, demain ils me suceront la bite quand j'aurai pété. Si personne veut donner, j't'assure on va péter. J't'assure on va péter, leur terrain est fichu. Ils m'ont vu grandir, leur vie m'intéresse plus. Ils sont bons qu'à mentir, le convoi est discret. Faut pas qu'on nous voit, quand on arrive tu sais très bien qu'on envoie. Pas de 8 le pain, 5-5 le sang, j'ai de bugueux. J'annonce les tarots, faut pas bugger. J'annonce les tarots, faut pas bugger.
Tu sais ce qu'il y a de marrant? Quand je suis avec les potes ou à la maison et tout, et qu'il y a plein de bruit et même dégueulance parfois, je me sens seule quand même. Il y a plein de bruit, de cris et de hurlements, et tout à coup, moi j'ai l'impression d'être seule.
Mais plus il y a de monde, tu sais, plus on se sent seul.
Moins il y a de monde, mieux je me sens. On dirait que je m'en sors. Ils veulent tous devenir mes potes depuis que j'ai touché 200. 200 000 vues c'est rien, faut pas que je perde mon sérieux. Je me dois de rester serein, je me dois de rester serein. Moins y'a de monde, mieux je me sens. On dirait que je m'en sors. Ils veulent tous devenir mes potes depuis que j'ai touché 200. 200 000 vues c'est rien, faut pas que je perde mon sérieux. Je me dois de rester serein, je me dois de rester serein. C'est réel, je suis pas dans les menaces. Je suis plutôt du côté des promesses. Elsa me connaît bien avant le ménage. Les bagues du secteur aussi, ils nous connaissent. Ils savent qu'on prend des risques dans les rixes impliqués à fond, gars. Je suis déçu de certains négros, pourtant il y a quelques temps c'était grave, mes gars. Oh putain, si seulement vous savez combien de fois la flemme m'a sauvé. J'ai compris que le terrain n'était pas fait pour moi quand j'ai connu la vente à la sauver. Je préfère marcher qu'avec Bendé. Je suis moins serein quand on est plein. Les filles s'affolent parce que je suis pas sérieux. Au final, aucune d'entre elles ne me connaît bien. Moins y'a de monde, mieux je me sens. On dirait que je m'en sors. Ils veulent tous devenir mes potes depuis que j'ai touché 200. 200 000 vues, c'est rien. Faut pas que je perde mon sérieux. Je me dois de rester serein. Je me dois de rester serein.
Vous êtes à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30. Je rappelle rapidement les contacts. Vous pouvez nous appeler en direct au 01 40 05 06 10 ou toute la semaine au 07 53 10 31 95 sur ce téléphone où il y a désormais signal, donc c'est super. Vous pouvez nous écrire à fpp-l'envolée ou l'envolée-fpp comme vous voulez au 1 rue de la Solidarité, Paris 19e ou nous contacter sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Et du coup, comme on vous l'annonçait en début d'émission, on va passer un enregistrement qui revient sur la marche du 8 septembre dernier, en hommage à Idir Médérès, qui est mort au mitard de Lyon Corba en 2020.
Réponses claires de la justice et des explications pour chacun des actes à exécuter qui lui ont été demandés. Aujourd'hui, le terme de meurtre n'est plus du domaine de la croyance, mais résulte de faits probants mettant en cause une enquête officielle ayant pour but d'éluder toute trace menant à la vérité sur les circonstances officielles de la mort d'Idir. L'enquête établie par l'association Idir Espoir et Solidarité révèle non seulement une volonté d'éluder les preuves de la culpabilité des auteurs du meurtre d'Idir, mais la révélation d'un système établi et entériné depuis des lustres jusqu'au lieu fort de l'État et des différentes juridictions. La mort d'Idir est à mettre en relation directe avec un nombre explosif de morts suspectes, couverts par une omerta et un silence à tous les niveaux, de l'administration pénitentiaire, des gendarmes en charge d'enquêter sur ces morts, jusqu'au système judiciaire qui s'assoit sur les dossiers. En dépit des dénonciations du Comité contre la torture de l'ONU, les abus et les exactions continuent dans les prisons, au vu et au su des dirigeants de l'État, plus que jamais indifférents aux condamnations des organisations internationales, indifférents aussi à la douleur et à la mobilisation permanente des parents des victimes, engagés jusqu'à l'abnégation dans une lutte pour le droit à la vérité et à la réparation du préjudice. Justice et vérité pour Idir, pour tous et pour tous les autres. Pas de justice !
Pas de justice ! Les 7 et 8 septembre 2024, l'association Idir Espoir et Solidarité organisait à Lyon un week-end de commémoration et de mobilisation. Voici quelques extraits des prises de parole enregistrées lors de la soirée de soutien et lors de la marche qui a traversé les rues de Lyon le lendemain. Najette, la mère d'Idir Médérès, qui a lancé et porté les mobilisations, prend la parole, suivie d'un membre de l'association.
Voilà maintenant 4 ans. Le 9 septembre 2020, que mon fils Idir est décédé au centre pénitentiaire de Corba. Ce jour-là, j'ai été averti par téléphone. Une voix froide, brutale, m'a pris sans ménagement que mon fils est décédé par pendaison. J'ai été pétrifiée. Comment raconter le passage entre la vie d'avant et la chute dans le vide total? Une partie de mon cerveau était encore avec le souvenir d'Idir vivant. La dernière conversation téléphonique, en m'apprenant combien il était impatient de sortir. La douleur est trop forte pour être calmée par les larmes. Décrire le choc d'une telle annonce est impossible par les mots. Ses frères et sa sœur âgés de 12 ans, moi-même, nous étions comme anesthésiés. La sidération, une fois passée, nous ne pouvons imaginer qui dire et puis partir. Nous avions de bonnes raisons de douter. Idir me disait que son moral était bon et qu'il avait hâte de nous retrouver. Il s'était fixé des projets, des fiançailles avec sa petite copine, une promesse d'embauche dans une entreprise d'informatique. Tout ceci m'a poussé à en savoir un peu plus. J'ai demandé le dossier à mon avocat. À la lecture du rapport d'autopsie, des auditions des agents pénitentiaires, des vidéos, peu de choses collées avec la thèse du suicide. Au bout de plusieurs mois, le résultat de notre enquête a abouti à une plainte déposée pour meurtre, ainsi qu'à des demandes d'actes supplémentaires à faire exécuter par le juge d'instruction. Ce juge, peu de jours après m'avoir reçu, m'avait fait la promesse d'aller jusqu'au bout de mes demandes. Au vu des nombreuses anomalies du dossier, mon étonnement d'apprendre qu'il a été muté quelques semaines plus tard, ma stupéfaction d'apprendre que sa remplaçante n'avait toujours pas le dossier en main, au bout de 6 mois. Pire, elle n'en avait jamais entendu parler. Paraît-il, il a été perdu. Devant le silence de la nouvelle juge d'instruction et son refus d'exécuter les actes demandés, nous avons décidé de nous référer à la cour d'appel. Actuellement, nous sommes en attente d'une prochaine audience après avoir décortiqué le dossier pendant des mois. Devrais-je sacrifier encore des années à lutter pour que la vérité éclate au grand jour? Ben oui, je suis déterminée à ne rien lâcher pour la mémoire d'Idir et pour tous ceux qui sont morts en prison. Pas de justice.
Pas de paix.
Pas de justice.
Pas de paix.
Pas de justice.
Pas de paix.
Pas de justice.
Le témoignage de Najette. Donc, je vais pas sur le côté émotionnel, c'est toujours fort, mais je souhaiterais rajouter une chose, c'est que lorsqu'on parle de doute ou d'incohérence dans le dossier, ça ne relève pas de la croyance, ça ne relève pas non plus de la douleur d'une mère. Ça, c'est souvent, c'est un peu ce qui est évoqué ou ce qui court un peu à travers ce genre de dossier, c'est les familles qui dénoncent ou qui mettent en doute. Il faut dire qu'avec le dossier de Edir, on est parti de rien, à savoir qu'on n'avait pas d'a priori, à part les doutes, des doutes, ça reste un doute. Mais lorsqu'on avance dans le dossier, on se rend compte que vraiment, c'est plus qu'un dossier bâclé. Il y a des indices et des preuves qui démontrent qu'il y a eu une volonté de bâcler le dossier, une volonté d'éteindre les témoignages, une volonté de trafiquer des vidéos, parce que la vidéo, il y a des coupures qui ne devraient pas y être. Il y a aussi des coupures au moment des faits sur la cellule, une vidéo qui fixe la cellule de Idir. Et cette vidéo, justement, il y a une porte qui a caché justement l'entrée de la cellule de Idir. Il y a aussi le témoignage d'un détenu qui a entendu des cris et des coups à côté. Ce détenu a été entendu par les gendarmes, il faut dire, le pauvre, qui a été malmené par la suite. Parce que lorsqu'on témoigne et qu'on est en prison, il faut dire qu'il y a une pression qui est faite par les agents et par la hiérarchie, et surtout par la gendarmerie, qui menace aussi ces détenus d'avoir témoigné. Il y a aussi d'autres éléments, notamment l'autopsie, le rapport d'autopsie. On a fait le rapprochement avec d'autres rapports d'autopsie de mort en détention. C'est exactement du copier-coller. À savoir que le médecin légiste n'arrive toujours pas à déterminer l'heure de la mort du détenu, du jeune. Alors, il y a toujours une marge entre 12h et 24h, ou entre 0h et 12h. Et il se trouve que l'heure exacte d'un décès correspond pas souvent à ce que les médecins légistes nous donnent comme ordre, comme fourchette. Et donc ça, c'est pour un peu noyer le poisson, c'est-à-dire lorsqu'on a des éléments probants sur des choses qui sont passées, des témoignages d'agents qui nous disent à telle heure j'étais à cet endroit et que les images prouvent que cet agent pénitentiaire n'était pas là à cet endroit qui précise, tout ça, ça fait partie de la confusion créée autour d'une mort qui est en détention pour noyer le poisson et faire en sorte que le juge ne s'y retrouve pas. C'est voulu, hein. Il faut dire que les juges d'instruction sur Lyon aussi sont pro-sécuritaires, pro-hors d'établi. Il faut persister, on doit continuer, on n'a pas le droit de se démoraliser. Si c'est un combat de longue haleine, pendant des années qu'on doit mener, on le mettra. Et on aboutira à la vérité sur la mort d'Edir. Le tout, c'est que nous, la vérité sur la mort d'Edir, on la connaît. Il faut la rendre sur la place publique, il faut que les agents qui sont concernés par cette affaire soient poursuivis.
On souhaite dire qu'on va parler longtemps de la mort d'Edir. On va parler longtemps du dossier d'Edir pendant des années, quelles que soient les décisions de la justice. Il faut dire qu'après un non-lieu, l'affaire n'est pas terminée. Il reste encore des témoignages qu'on n'a pas entendus au niveau du dossier d'Edir et qu'on souhaite faire entendre par la justice. La France a 7 fois moins de personnes détenues que les États-Unis. Et pourtant, elle compte près de 50% de décès en plus, des chiffres qui nous interpellent au plus haut point. Les observateurs, les organismes, les ONG se posent la question, qu'est-ce qui se passe en France depuis une décennie? Après avoir détenu le record d'Europe de décès perpétrés par les forces de l'ordre, sur la voie publique, voici qu'elle détient le taux de décès au milieu carcéral le plus élevé d'Europe. Le taux de mortalité suit le taux d'incarcération. On peut incarcérer maintenant avec les nouvelles lois sécuritaires et le code de la sécurité intérieure pour des délits mineurs, des délits qui n'étaient pas considérés comme des délits auparavant et qu'on n'incarcérait pas auparavant. Il y avait des amendes et désormais on incarcère pour pas grand-chose. On incarcère donc pour des délits routiers, pour des pensions alimentaires aussi, pour des loyers impayés, pour des délits d'outrage, pour une cigarette, du chichon qui est en poche d'une personne qui habite dans le quartier populaire, il y a des choses qu'on ne se voit pas dans des personnes qui habitent le 6e arrondissement.
Nadia, la maman de Bilel El Abdani, mort à la prison des Baumettes à Marseille le 10 août 2017, revient sur le combat qu'elle mène depuis.
Bon, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis la maman de Bilel, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Bilel qui avait 20 ans, bipolaire, il est mort à Marseille. En fait, il est parti à Marseille pour prendre des vacances, acheter des cadeaux à sa fiancée, profiter de la mer et voir Joule, son chanteur préféré. Et du coup, il est allé dans un hôtel, il a payé deux nuits. Et en fait, la première nuit s'est super bien passée. Il servait du jus d'orange aux clients, il discutait un peu avec tout le monde. Et il dérangeait personne. Et du coup, il allait voir la mère, il a acheté des cadeaux pour sa fiancée, puis il est rentré. Et du coup, en fait, il a voulu repartir le lendemain. Il appelait son père en lui disant « Papa, je vais rentrer ». Il a demandé à l'hôtel de lui rembourser sa nuit en plus qu'il avait payée, donc 80 euros. Et il est allé devant l'hôtel, il a vu un SDF, il lui a donné l'argent, tellement qu'il avait un bon cœur. Et du coup, il est monté dans sa chambre. Et comme il était bipolaire, il se réfugiait beaucoup dans la religion pour demander à Dieu d'aider par rapport à sa maladie, surmonter les crises. Et donc, moi, je lui disais toujours, fais pas la prière à voix haute, mais chez les musulmans, les hommes, ils font la prière à voix haute. Donc, il a fait la prière à voix haute, trois fois, à la Wawa. Et il y a une femme de ménage qui l'a entendue. Elle est descendue à l'accueil en lui disant, il y a un terroriste dans l'hôtel. Ils ont appelé la police, ils sont venus, ils sont rentrés dans sa chambre. En fait, ils ont tout fouillé, ils n'ont rien trouvé. Ils l'ont mis en garde à vue 48 heures. voire 72 heures. Donc il a fait 72 heures de garde à vue, il est passé à 23 heures en jugement devant le juge et ils l'ont jeté en prison. Et donc ils l'ont jeté en prison à 23 heures du soir. Le lendemain, il est mort. Donc, de quoi, je ne savais pas. Donc ils ont appelé, parce que moi j'habite Vienne. Ils ont appelé la police de Vienne pour m'avertir comme quoi mon fils était décédé, donc à 4 heures du matin, mais eux ne savaient pas de quoi. J'ai appelé le tribunal, le tribunal n'était pas au courant. Et donc, moi j'ai tout lâché et je suis montée à Marseille. Et je suis allée au commissariat, donc là où il a pris sa garde à vue. Ils m'ont dit non, c'est pas ici, il faut aller à l'autre commissariat. Donc je suis allée à l'autre commissariat, ils m'ont dit non, c'est pas ici. Je lui ai dit, ben il faut savoir, c'est dans lequel qu'il est. En fait, il s'est envoyé là-bas. Donc, quand il est mort, sur l'acte de décès, ils ont mis le nom de son père, comme quoi c'était son père qui était décédé. Donc tout a été fait à l'arrache. Donc du coup, maintenant que vous connaissez l'histoire de Bilal. Il avait 20 ans, il était bipolaire. Je veux aussi qu'on reconnaisse cette maladie bipolaire. Ce n'est pas une maladie où on est violent. Donc je vais vous lire ce que j'ai préparé. Dans cette histoire tragique qui nous a tous détruits, son père n'a plus de repères. Son frère s'est réfugié dans l'alcool. D'ailleurs, il fait des rentrées et sorties en prison pour conduite en état d'ivresse. Et moi, je suis morte depuis que mon fils est décédé. Donc, c'est-à-dire le 10 août 2017. Donc Bilal était bipolaire, pas agressif. Mais à un moment de crise, il devenait un enfant de 4 ans, voire 2 ans. Il ne savait plus parler. Ni ce qu'il devait faire. Il devait être guidé et rassuré, ce qui lui permettait d'être atténué. Il trouvait du réconfort dans la prière. Alors cela l'apaisait. Ce qui m'énerve dans ce monde, c'est que lorsque les gens voient une personne malade, ils le voient comme un danger. Alors que Bilal n'est pas le seul malade. Il y a plein de personnes bipolaires, avec plusieurs degrés de gravité dans la pathologie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une personne malade, quand elle est en moment de crise, elle a peur, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Ces crises sont des appels à l'aide. J'avais besoin de parler des personnes bipolaires, car quand je les vois dehors, ça me fend le cœur. C'est injuste aussi, car on est impuissant devant leur pathologie. Les gens les jugent ou les ignorent sans même essayer de les comprendre. Bon. Je reviens sur l'histoire de Bilal, de mon bibi, qui me manque énormément. Son dossier a été jugé le 25 juin 2024, 7 ans après son décès. Un mois après le jugement, mon avocat m'a annoncé que l'État a été condamné responsable du décès de Bibi, ce qui est une première. L'État reconnaît sa faute. Pour moi, c'est une victoire. Et je ne m'y attendais pas. C'était inespéré. Je l'avoue. Vous pensez que l'histoire va s'arrêter là? C'est un long combat qui recommence, car cette responsabilité avérée de l'État nous permet de réouvrir l'enquête et de juger toutes les personnes responsables, dont la directrice de la prison,
qui n'a pas fait son travail comme il le fallait. Elle a menti en disant que Bibi était en prison pour vol. Encore une étiquette qu'on lui a collée sur le dos, parce qu'on lui avait collé à la base apologie du terrorisme, alors que ce n'était pas fondé. Et on m'a même posé à moi la question, qu'est-ce que votre fils faisait en prison? Alors que, et moi, je leur ai répondu, c'est pas moi qui l'ai mis en prison, c'est vous qui l'avez mis. Donc il était sous sa responsabilité. Donc le juge qui l'a jeté en prison, sans motif valable, dès que ces deux personnes seront jugées, je pourrai commencer à faire mon deuil. Il y a aussi les médecins qui l'ont déclaré apte à la garde à vue, alors qu'il n'était pas apte. Les policiers qui l'ont mal géré. Et Bilal a fait une crise à ce moment-là, où il ne savait même plus parler, et il ne savait même plus ce qu'il devait faire. Donc voilà. Au jour d'aujourd'hui, ce qui fait 7 ans que Bilal est décédé, je suis toujours en train de demander ces effets personnels qu'ils ne veulent pas me donner. L'État ne répond pas aux appels, au courrier de l'avocat. Moi, je veux tout récupérer ces effets parce qu'en fait, quand il est décédé, on m'a transmis une photo par erreur dans le dossier. Il était tout nu. Il n'y avait aucun vêtement sur lui, aucun vêtement à côté et juste une flaque de sang. Et là, on me dit qu'on croit qu'il s'est suicidé. Donc voilà. Et comme on dit, pas de paix, pas de justice.
Pas de justice!
Un membre de l'OIP parle de l'enfermement du système judiciaire, puis des mitards, ces quartiers disciplinaires où de trop nombreux prisonniers, comme Idir, trouvent la mort.
Donc là, je vais vous lire un petit extrait d'un témoignage d'un détenu qui parle de ce que provoque la détention. L'enfermement est par essence mortifère. C'est la perte d'une autonomie, d'un statut social, des relations amicales et familiales, de l'estime de soi. C'est l'odorat qui s'abîme, la vue qui décline faute d'horizon. La peau qui se carapace ne ressent plus les plaisirs. La distorsion du temps, l'effacement du réel, le sommeil troublé, l'anxiété provoquée par l'omniprésence du regard, l'effondrement dépressif pour certains, ou la surveillance de pathologies mentales. Quand on parle de prison, on parle aussi de justice, et du coup on constate depuis des années qu'il y a une augmentation de la répression, qui engendre un durcissement du dispositif punitif, donc on incarcère toujours plus longtemps. Et ça se traduit par une augmentation de la détention et de la surpopulation. Et du coup, ça, c'est compliqué à gérer et c'est d'autant moins vivable pour les détenus. Quand on parle des morts en prison, il faut aussi parler des suicides parce que le suicide, il est 9 fois plus élevé en détention qu'à l'extérieur. Et au mitard, il est 15 fois plus élevé que dans la détention. Au mitard, on peut y rester 30 jours. Sauf que le mitard, ça rend dingue. C'est compliqué à gérer et compagnie. Et du coup, les gens sont au mitard pendant 30 jours. Ils en sortent 2, 3 jours. Ils pètent un plomb en prison, et ils retournent au mitard pendant 30 jours. Et ça, c'est des cas qui arrivent souvent. Il y a eu une circulaire de juin 2011 de l'administration pénitentiaire qui parle de la discipline en prison, qui permet, selon la paix, l'administration pénitentiaire, de développer une vie collective harmonieuse, le respect des droits fondamentaux de chacun, qui parle des vertus pédagogiques, des sanctions disciplinaires, qui susciterait chez les personnes incarcérées le sens des responsabilités, les amenant à une réflexion sur leur comportement et une confrontation aux exigences de la vie en collectivité. Admettons. Le mitard, c'est la sanction la plus commune en prison. C'est pas une sanction d'exception. La liste des choses pour lesquelles on peut se retrouver au mitard est assez floue. Ça peut être de la musique qui est trop forte, un œil ton bouché, ce genre de choses. Concernant les procédures disciplinaires, en fait, au début, quand il y a une connerie qui est supposément faite par un détenu, il va y avoir un compte-rendu d'incident qui va être fait par les protagonistes de cet incident. Ensuite, il va y avoir un rapport d'enquête, sauf qu'on s'aperçoit que ce compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête sont à peu près des copier-coller. Ensuite, il va passer en commission disciplinaire, et là, on s'aperçoit que c'est le chef d'établissement qui préside cette commission disciplinaire. Donc, il est à la fois juge et partie. Il y a peu de témoins qui sont entendus, voire aucun, et les détenus comparaissent entourés de surveillants. Il y a quelques exemples récents. En octobre 2023, à Strasbourg, il y a un détenu qui a été passé à tabac par des surveillants. Il a plusieurs dizaines de blessures qui sont constatées, plusieurs visages et compagnie, il a 50 jours d'ITT. Il y a 2 de ces 3 surveillants qui ont pris 6 mois avec sursis et qui exercent encore. Là, en février dernier, il y a un détenu qui a essayé de se suicider et qui a été sanctionné, qui a été puni par la commission disciplinaire pour avoir tenté de se suicider en prison. Il y a quelques années à Queuleu, à la prison de Metz, il y a un détenu qui a fait un arrêt cardiaque. Son co-détenu a essayé d'appeler les secours, ce qu'il n'a pas réussi par l'espèce de bitonio là. Et du coup, il a pris sur lui de prendre son portable auquel il n'a pas le droit pour appeler les secours. Son co-détenu est mort, lui a été sanctionné pour avoir utilisé son téléphone. C'est des cas qui sont réels et qui ont existé récemment. En cas de décès ou d'hospitalisation, le chef d'établissement est absolument tenu d'en informer la famille, sauf que c'est souvent fait très très tard ou pas fait. Il y a des cas de décès en France où les familles ont été informées 3 semaines après. Idem pour les conclusions de l'autopsie qui doivent être obligatoirement être informées à la famille, quoi. Et souvent, c'est très très tardif ou pas fait. Donc, l'histoire de dire est assez emblématique de l'impossibilité de connaître la réalité des violences pénitentiaires, qui est en particulier au quartier disciplinaire. On peut considérer qu'une grande partie de ces morts est imputable à l'administration pénitentiaire, à la brutalité carcérale, à l'injustice de la chaîne pénale, qui se répercute aussi sur les proches, qui n'obtiennent que trop rarement de réponses à leurs questions, et doivent se débattre seuls pour avoir la lumière sur ce qui s'est réellement passé, et qu'une vraie justice soit enfin faite.
C'est Kamel, qui anime le groupe Facebook « Combattre pour la dignité et le respect de tous les détenus », qui poursuit.
Bonsoir tout le monde, voilà, je me présente, je suis un ancien détenu. J'interviens déjà depuis plusieurs années, plusieurs décennies aux côtés des détenus à l'intérieur des prisons et depuis quelques années à l'extérieur. Il faut savoir, comme le disait la personne qui a intervenu de l'OIP, auparavant c'était 45 jours de mitard, qui a été descendu à 30 jours par la nouvelle loi pénitentiaire de 2009. Mais en général, le personnel qui est mis en intervention au mitard ou en surveillance, on sait que c'est les plus rares de la prison. Et on ne stigmatise pas, surtout, tous les surveillants. 80 à 90% des surveillants font leur travail correctement, ou des surveillantes, il n'y a pas de souci là-dessus. Le problème, c'est sur les 10-15% qui restent. Donc comme vous voyez par rapport aux interventions qu'il y a eu, c'est très difficile de faire reconnaître un décès, ou voire même un assassinat ou un meurtre en détention. Parce que d'une, l'administration pénitentiaire, son ministère de tutelle, c'est le ministère de la Justice. Le parquet, qui est censé faire les poursuites, à le même ministère de tutelle, 97% des dossiers sont classés sans suite. Donc comme je disais, quelles sont les réelles conditions qu'il y a au quartier disciplinaire ou au quartier d'isolement, en dehors des reportages et des visites officielles qui nous montrent jamais les réelles conditions? Pourquoi systématiquement les caméras sont en panne quand il y a un décès survient, ou la falsification d'images censées être gardées suite à une saisine judiciaire? Pourquoi on parle jamais des 100 à 150 détenus décédés chaque année, sachant qu'un rapport expliquer que 25% des décès en prison ne sont pas dus à des suicides. Donc on se demande, ils sont dus à quoi? Et pourquoi le garde des Sceaux, surtout, est juge et parti dans chaque procédure, correctionnelle au pénal ou administrative? Donc malgré les RPE, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les règles pénitentiaires européennes, la loi pénitentiaire de 2009, où aucune réelle avancée n'a été constatée depuis plus de 15 ans. Et surtout, quel est le réel motif actuel de la suppression de l'encellulement individuel? Car il était prescrit dans le code de procédure pénale que tout détenu a droit à une cellule individuelle. Donc moi, je voudrais souligner ici et maintenant une pensée pour la MAF, les maisons d'arrêt pour femmes, les familles détenues, les maisons d'arrêt pour hommes, et tous les intervenants et bénévoles, ainsi que toutes les familles qui ont perdu un proche. Merci pour eux.
Bonsoir, je représente l'association Flagrant Déni. Notre site web, c'est flagrantdeni.fr et nous, on est spécialistes des violences policières. Donc, je suis un peu déplacée ici, surtout après l'émotion qu'a suscité le témoignage des familles. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Nous, on a des gens qui témoignent contre des violences policières et ces gens-là, ils ont un courage extraordinaire. Parce que c'est une plainte qui est inégale. C'est la plainte de celui qui n'a pas de pouvoir contre celui qui en a. Et dans les prisons, c'est pas du tout la même situation, c'est largement pire. Parce que quand un détenu se plaint, c'est la plainte de la victime contre celui qui a les clés. Ce qui est quand même très, très différent. Et c'est pour ça qu'il y a un nombre de plaintes qui est certainement très en dessous des violences réelles. C'est pour ça que ça leur demande un courage absolument extraordinaire. Et ce qui différencie la violence policière de la violence carcérale, c'est l'enfermement. On ne sait pas du tout ce qui se passe en prison. Surtout au mitard, même les prisonniers dans le secteur normal ne savent pas très bien ce qui s'y passe. Et du coup, il y a toujours un doute sur les événements qui se passent là-bas, et c'est ce qui est insupportable pour les familles. Il y a des suicides, il y en a certainement, mais des violences extérieures, il y en a certainement aussi. Et quand bien même il s'agit de suicides, ils ne se suicident pas pour rien, les gens qui sont là, donc il y a quand même une enquête à faire sur ce qui les a menés là. Et c'est évidemment en premier lieu pour les détenus et leurs familles et leurs amis que c'est insupportable. Mais on ne devrait pas fermer les yeux là-dessus, parce que ces gens-là, c'est des concitoyens qui, à un moment donné, ont été écartés de la population parce qu'on avait estimé qu'ils avaient fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Mais ça reste des concitoyens. Et c'est pas normal qu'on les sorte de notre regard et qu'on sache pas du tout ce qui leur arrive. Et que des fois on les récupère pas, et que quand on les récupère, ils ont beaucoup changé. Enfin, il y a quand même un truc secret qui se passe là-dedans qui est pas normal.
Je fais partie de L'Envolée, qui est un journal et une émission de radio. On fait circuler la parole directe des prisonniers, prisonnières et de leurs proches, parce qu'en fait, elle circule à quasiment nulle part. Les violences pénitentiaires, la violence pénitentiaire, on la connaît que si on écoute ce qu'ont à dire les prisonniers et les prisonnières. Les cas de mort suspecte ou de mort de personnes tuées par les matons, très souvent les dernières années, tous les cas qui ont pu sortir dehors, où les familles et proches ont pu comprendre un peu ce qui s'était passé ou avoir des explications à leurs doutes, c'est quand des prisonniers et des prisonnières ont pris la parole. Et quand les prisonniers et les prisonnières prennent la parole, ils prennent des risques énormes. Et donc c'est très important de leur laisser un espace de parole, de faire circuler leur parole, de dialoguer avec eux et elles, avec les proches aussi. Et c'est aussi parce qu'il y a des familles et des proches qui se battent et qui lâchent pas l'affaire et qui font parler de leur cas et qui font des liens entre leurs cas qu'on commence un tout petit peu plus à parler de la violence pénitentiaire. Par exemple, un exemple, c'est que à force d'entendre des histoires de violence ici et là, et ben on comprend que telle petite technique, et ben en fait c'est une technique de maton qui est apprise à l'école de Fleury, et qui est une technique complètement illégale et meurtrière, mais qui en fait est apprise au maton. Parfois on se dit, tiens, c'est bizarre, un tel, il a mordu ici, et puis en fait on entend d'autres histoires où le prisonnier a mordu un surveillant, et en fait on comprend que c'est parce que les surveillants en fait utilisent des techniques tellement violentes que les prisonniers n'ont plus que ça à faire pour essayer de sauver la vie, etc. Plus on entend ces paroles, et plus on fait le lien, et plus on les relie les unes aux autres, et plus on comprend que la violence pénitentiaire, elle est systémique, et qu'au pire, les matons qui sont pas violents, ils couvrent leurs collègues. Voilà.
Moi, en tant qu'ancien prisonnier, il y a beaucoup de matons, c'était corrompu. Tout ce que vous dites, c'est la vérité. Il y a beaucoup de matons, c'était corrompu. Sérieusement, franchement, ça fait plaisir comment vous parlez. Parce que c'est la vérité.
Lors de la manifestation du lendemain, le 8 septembre, un membre de l'association IDIR Espoir et Solidarité prend la parole dans les rues de Lyon.
Les prisons françaises n'ont rien à envier avec celles des régimes autoritaires que les organisations internationales dénoncent à longueur d'année. Si on brutalise en prison, d'aucuns meurent dans les quartiers d'isolement par manque de soins ou suite aux brutalités des gardiens qualifiés pudiquement de morts suspectes ou de pendaison. Au-delà de la loi du silence, ces affaires illustrent d'autres mécanismes qui empêchent d'établir la vérité et concourent à l'impunité. Aujourd'hui, face à l'omerta des pouvoirs publics, à la fébrilité des avocats en charge de leur dossier, je répète, à la fébrilité des avocats en charge de leur dossier, on a beaucoup de problèmes avec les avocats et le manque de courage de certains avocats qui n'osent pas s'affronter les magistrats pour demander les actes, pour déranger le système judiciaire. Les familles des victimes ont décidé de prendre en main leur affaire en main et d'équiper la place publique. Tout comme les familles des victimes de violences policières, elles enquêtent, décortiquent point par point leur dossier et remettent en cause par des preuves fraudantes en bien des points les versions officielles concluant des morts accidentelles ou par suicide. Les familles souhaitent témoigner de la gravité de la situation et par volontaire du zone d'un endroit qui s'est installé dans les maisons d'arrêt, ainsi que dans les centres de rétention administrative qu'une prochaine loi Darmanin, toujours plus radicale et répressive, va encore contribuer à couvrir et à aggraver. Vérité sur les morts de Idir, stop à l'hécatombe, stop aux morts des jeunes des quartiers populaires, dans la rue ou en détention. Merci.
Pas de paix.
200 personnes, avec de nombreuses pancartes, je vais vous en lire quelques-unes. Justice pour Yacine, justice pour Sofiane, justice pour Mehdi, les prisons suicident entre guillemets les détenus, nique la BAC, la prison assassine, assassinons les prisons. Gaza, prison à ciel ouvert. France, prison à ciel fermé. Justice pour Bilal. Abolition des prisons. La prison tue. Justice pour Bilal. De France à Palestine, libérer tous les prisonniers, toutes les prisonnières. Maton violent, stop impunité. En finir avec les mitards, abolition des mitards. Ils diront t'aime. Justice pour Djimoni. Les prisons tuent. Libérer les émeutiers. Quelques interventions viennent clore la marche.
Les familles des victimes doivent déployer une énergie dingue parce que, voilà, entre la douleur et puis le besoin et même l'obligation de méditer son propre dossier, tout ça, ça prend une énergie dingue. On n'est pas serein. 24h/24, on doit préparer les événements successifs les uns aux autres. Et depuis 4 années, il faut dire que ça a été beaucoup.
Merci beaucoup. Merci d'être là. Grâce à vous, je suis debout. Grâce à votre soutien, je suis debout. Sans vous, je ne pense pas que je résiste. C'est grâce à vous que je continue à lutter. Pour mon fils, pour les autres, pour que la justice soit faite pour tout le monde. Mon fils, il est parti, il ne revient plus. Nous, on est debout et on lutte. La première des choses pour éclater la vérité, et la deuxième des choses pour sauver les autres. Pour que ces monstres, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, que ce soit tué par les bateaux ou par les policiers, soit puni. Comme nos enfants, nos jeunes, ils font rien, un truc de rien du tout, ils sont punis. Et bien ces assassins, il faut qu'ils rentrent aussi. Pas de justice. Pas de justice. Pas de justice. Idir, idir. Assassiné.
Assassiné.
Par les bâtons.
Par les bâtons.
Lion corbeau.
Lion corbeau.
Pas de justice. Pas de justice.
Pas
de justice.
Pas
de justice.
D'avoir été présents si nombreux. Et donc, on vous donne rendez-vous aussi le 26 et 27 octobre, ici à Lyon, pour un événement contre les violences policières et contre les violences pénitentiaires. Donc, ensemble, rassemblement des familles des victimes
afférents aux violences policières, aux meurtres commis par la police et aux meurtres commis par les agents en détention ici sur Lyon et sur la région aussi.
Vous êtes de retour à l'écoute de l'Envolée sur FPP 106.3. Et du coup, je ne vais pas rappeler les contacts parce qu'on n'a plus beaucoup de temps avant la fin de l'émission, mais on voulait vous parler un peu de ce qui se passe à Mayotte et en Martinique. Du coup, on va commencer par Mayotte parce que le 28 septembre, il y a eu une mutinerie à la prison de Majicavo, qui est la seule prison de l'île. Et qu'ensuite, le 7 octobre, on a eu un peu la démission surprise du directeur de la tôle de Majicavo. Du coup, on voulait un peu revenir là-dessus, sur la mutinerie d'abord, puis sur la démission de ce directeur de tôle-là. Et bon, comme d'habitude, comme souvent en tout cas, on n'a pas beaucoup d'infos précises sur ce qui s'est passé pendant cette mutinerie, parce que les infos, elles passent par les syndicats de Maton principalement, qui racontent que leur version des faits. Donc on va quand même revenir un peu sur les 2-3 trucs qui sont passés dans la presse, avec comme d'habitude 1000 guillemets, parce qu'on n'a pas eu la parole des personnes prisonnières, en tout cas, qui ont participé à ce truc-là, quoi.
Ouais, donc de ce qu'on a eu un peu comme écho dans ce qui est sorti dans la presse là-dessus, c'est que du coup, en gros, le 28 septembre, vers 15h, donc au moment du retour de la promenade, il y a une trentaine de prisonniers qui auraient participé à une mutinerie. Il est raconté que du coup, il y aurait eu un maton qui aurait été menacé avec une barre de fer apparemment et une prise d'otage, donc ça aussi c'est pas très clair, est-ce que c'est la même personne ou est-ce que c'est deux personnes, deux matons différents, ça j'ai pas capté tout à fait. En gros, ça a duré quelques heures jusqu'à ce qu'il y ait l'intervention du GIGN qui soit arrivé à Majicavo, donc voilà en gros pour ce qu'on a eu comme info. Si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas bien sûr de l'intérieur, ou si vous connaissez des gens qui en ont à nous les envoyer. Ensuite du coup, suite à ça, il y a donc plusieurs choses qui ont été dites, donc qu'il fallait y avoir un transfert de 27 détenus vers deux prisons de la Réunion, donc la prison du Port et la prison de Domaine-Jode. Également il y a 5 détenus qui vont passer devant le tribunal correctionnel le 14 novembre pour participation à cette mutinerie là. Donc voilà, ça c'est un peu les infos qu'on a sur le moment. Une des directrices de prison de la Réunion, je ne sais plus laquelle, a mentionné aussi le fait que il allait y avoir peut-être des transferts vers la métropole suite à ça.
Ouais, et en fait tout ça, le fait qu'il y a eu ce truc de la démission du directeur de tôle après, ça fait un espèce de contexte où là on écoute beaucoup les syndicats de Maton, de la tôle de Majicavo, qui du coup formulent aussi leurs revendications à eux. Et donc sur cette démission, juste pour expliquer, c'est que donc le directeur de la tôle de Majicavo, il a fait un peu une sorte de coup de com qui s'auto-décrit comme une espèce d'appel contre la surpopulation carcérale, où en fait, c'est comme d'hab, c'est pas très surprenant, c'est pas un truc pour libérer les gens, c'est globalement, il est pas très content que la deuxième tôle de Mayotte qui avait été promise par Dupond-Moretti mette autant de temps à se mettre en place. Et donc, cette démission qu'il a fait un peu en mode « je préviens personne, je fais mon coup de com' » et tout, elle vise à appeler d'urgence la construction d'une deuxième prison, parce que cette première prison, on va revenir un peu sur c'est quoi cette tôle de Majicavo. Il y a pas la, elle est en gros, il y a genre 650 prisonniers pour 278 places, donc c'est quand même une surpopulation de ouf, hein, même si dans plein de maisons d'arrêt c'est comme ça. Et
ça a atteint des niveaux assez vénères, il y a quasiment 200% à la maison d'arrêt et quasiment 300% au centre de détention, donc c'est quand même supérieur même à la plupart des tôles qu'il y a en métropole en termes de surpopulation, quoi. Il y a à peu près 5 personnes par cellule, entre 4 et 5 personnes là, voilà.
Ouais, pour des cellules de deux. Donc tout à l'heure, on parlait des triplettes à Fleury. Là, c'est quand même un autre niveau, quoi. Et donc, lui, en gros, se plaint. Dupond-Moretti, en 2022, avait promis une deuxième tôle de 400 places avec un centre de semi-liberté. Et en fait, le truc, c'est qu'il galère un peu à la mettre en place parce qu'il trouve pas de terrain. Et donc, lui, c'est pour ça qu'il fait cette espèce de coup de com' chelou qui va tout à fait dans le sens des syndicats de Mâton qui se sont un peu relayés dans la presse pour dire « Ah là là, quel courage !» Donc voilà, l'UFAPUNSA... Non, c'est la CGT Pénite qui dit « Ça a choqué tout le monde. » L'UFAPUNSA fait « C'est un acte hyper courageux de sa part qui témoigne de l'épuisement professionnel des Mâtons et tout. » Et donc, du coup, le truc qui est la mutinerie plus ça, ça fait que les Mâtons parlent dans la presse en disant leurs revendications. Et donc, globalement, ça a un petit peu de retentissement, quoi, vu que l'action, enfin, cette espèce de démission, là, qui, de coup de com', elle est dirigée contre le ministère de la Justice en disant, en fait, vous faites rien pour les tôles en Outre-mer où on galère, quoi. Donc, voilà. Et donc, ce truc d'annonce des transferts, c'est une réponse aussi à ça, de dire, bah, ok, pas de problème, on va transférer des gens à La Réunion, on promet de transférer des gens en Hexagone, et en fait, bah, c'est un truc dont on parle quand même souvent. En fait, ça veut dire transférer des gens où, bah, en fait, pour leurs proches, pour aller les voir, faut prendre l'avion, quoi. On en a parlé sur la Kanaky, on en a parlé sur la Guadeloupe et la Martinique, et là, c'est encore ce truc-là de transférer, notamment les longues peines. C'est aussi ça qu'ils demandent, que les longues peines tout particulièrement soient envoyées dans l'Hexagone, ce qui représente un isolement de ouf, quoi. Mmh. Et les syndicats de Mâton, là, en fait, ils demandent, dans leurs revendications, donc pas exactement ce qui est en train de se passer, on ne sait pas à quel point ils vont transférer beaucoup de gens, même s'ils font beaucoup de promesses, qu'il y ait 200 transferts de prisonniers vers La Réunion et vers l'Hexagone, quoi.
Sachant que les prisons, elles sont surpeuplées partout. Enfin, juste, c'est jamais ça la solution.
Ouais, et juste sur le truc d'être courageux, en fait, enfin, faut tranquille, quoi, parce qu'en fait, c'est pas une démission, c'est juste qu'en fait, il va arrêter d'être directeur de cette tôle, mais en fait, il quitte pas son poste de fonctionnaire, quoi. Donc c'est quand même un truc où t'entends démission, tu dis oh là là, le pauvre, il va mourir de faim demain. Non, mais que dalle, en fait. Le gars, en fait, c'est juste que il arrête d'être directeur de cette tôle, mais en fait, il va avoir un autre poste ailleurs. Donc en fait, voilà. Et en fait, on va le voir, vu que c'est la discussion de la pénitentiaire, en fait, depuis longtemps, qui a été vraiment le discours de Riedel pendant super longtemps. Donc Riedel, l'ancien directeur de l'administration pénitentiaire, on va voir qu'il va plutôt, en fait, être très très bien vu par l'administration pénitentiaire, et je suis sûr que sa carrière va plutôt faire un petit boom plutôt qu'autre chose, et que, en fait, professionnellement, il se met absolument pas dans la difficulté. Il faut aussi rappeler ça par rapport à toutes les luttes qu'il y a entre syndicats de Mâton. C'est-à-dire qu'il y a le syndicat SPS, pardon, qui a été créé contre les Mâtons, avec vraiment cette idée, nous, on est des prolos, notre patron, c'est le directeur de la tôle, et qui était vraiment en conflit très très fort, voilà, et c'est un syndicat qui prend de plus en plus de poids, qui est un syndicat de FAF et tout ça. Et là, le fait qu'un directeur montre par un coup de com' total qu'il est du côté des Mâtons, ça va complètement dans le sens de ces syndicats de FAF. Voilà. Et donc, en fait, faut vraiment le lire à l'aune de tous les mouvements à l'intérieur de la pénitentiaire et sur comment, en fait, c'est du poids de plus en plus fort donné à ces syndicats de FAF.
En tout cas, il a bien essayé de nous faire tirer les larmes en disant que ça lui brisait le cœur de faire ça après 27 ans passés avec l'administration pénitentiaire, ce qui était assez drôle. Et la presse reprend totalement ce truc, hein, parce que je ne sais plus dans quel article, c'était la voix blanche, submergée par l'émotion, le directeur de la tôle de Magicavo annonce sa démission. Et un des trucs qu'ils sont en train de faire, là, en fait, c'est sur ce truc d'être du côté des Mâtons, c'est aussi de nous construire une espèce de solidarité des Mâtons dans l'Outre-mer, où en fait, c'est l'Outre-mer qui est abandonné par le ministère de la Justice. Et en fait, pour l'instant, les premières mesures qui ont été effectives, donc c'est les transferts vers La Réunion et aussi l'envoi de 11 Mâtons de La Réunion vers Magicavo pour soutenir les collègues des Outre-mer, quoi. Donc c'est quand même assez... assez marrant. Donc voilà, si on essaiera de, enfin voilà, si on a d'autres infos, on les redonnera à l'antenne. On voulait juste mentionner ce truc, même si bah voilà, comme d'hab, on a que les infos des Mâtons et tout, et on sait pas trop hein, si ça va les aider à construire plus vite leur deuxième tôle. Mais globalement, c'est vers ça que les revendications vont, quoi. Et du coup, on voulait aussi faire un petit point sur ce qui se passait en Martinique en ce moment.
Alors oui, en Martinique, depuis le mois de septembre, il y a plein de mobilisations dans le cadre d'un mouvement contre la vie chère. Faut savoir qu'en Martinique, les prix, notamment enfin dans les supermarchés, c'est 40% plus cher qu'en Hexagone. 90% des produits alimentaires sont importés. Donc tout ça, ça fait que c'est vraiment la galère sur place pour se nourrir, etc. Et ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que s'il y a autant de mobilisation, c'est aussi parce que cette situation, c'est le résultat d'un contexte colonial. Par exemple, en Martinique, les supermarchés sont détenus par seulement deux groupes. Et au moins l'un d'entre eux, c'est un groupe qui appartient à une famille de béquets, donc c'est-à-dire des Blancs qui sont en fait des descendants des propriétaires d'esclaves. Et à l'abolition de l'esclavage en 1848, ces propriétaires d'esclaves, ils ont été grassement indemnisés, alors que les anciens esclaves, eux, n'ont rien eu du tout. Ça a été aussi à l'origine d'inégalités qui expliquent aussi toutes ces inégalités économiques et le fait que ces groupes alimentaires, ils peuvent se gaver ces groupes agroalimentaires et proposer des produits avec des tarifs qui sont aussi cher. Et ça s'explique aussi par le fait que tout soit importé sur place. Ça s'explique aussi par le fait que, avec la colonisation, toute l'agriculture vivrière, elle a été éradiquée pour notamment produire de la canne à sucre, etc. Ce qui fait que maintenant, les gens sont obligés de tout importer. Et ça aussi, ça coûte extrêmement cher.
Et oui, du coup, à la suite de l'augmentation en fait tout le temps croissante des prix et du fait que en fait les gens galèrent de plus en plus et puis finissent par plus arriver même à se nourrir, en gros il y a eu une mobilisation qui s'est lancée. Donc cette mobilisation elle ressemble un peu quand même à ce qu'on connaît dans les moyens d'action à la mobilisation des gilets jaunes contre l'augmentation du prix de l'essence en hexagone. Donc c'est des actions coup de poing aux caisses, des trucs d'auto-réduc, des opérations escargot, donc avec des voitures. Il y a aussi des ronds-points, beaucoup de ronds-points qui sont bloqués, des blocages de supermarchés et le blocage d'axes routiers quoi. Et donc cette mobilisation est dans un contexte colonial ou post-colonial, dans ce contexte-là est encore plus durement réprimée que déjà en hexagone quoi. Que le mouvement des gilets jaunes l'était, c'est-à-dire que en fait, ce jeudi-là, il y a eu il y avait déjà un coup des couvre-feux dans certains quartiers, qui étaient les quartiers dans les entre guillemets où l'État dit bon c'est les quartiers les plus chauds, donc du coup les gens ne peuvent pas sortir, notamment tout le monde ne peut pas sortir. Et là donc depuis jeudi, il y a un couvre-feu de 21h à 5h du matin, donc général. Il y a aussi l'interdiction de tous les rassemblements, Donc tous les rassemblements, vous savez comment ça se passe, c'est la préfecture qui sait ça, c'est plus de deux personnes à un rassemblement, on sait très bien. Donc t'es devant un rond-point, c'est un rassemblement, je pense que j'ai pas besoin de le respécifier, mais c'est quand même important, parce que leur notion de rassemblement est quand même très limitée, quoi. Y a aussi tous les établissements scolaires qui sont fermés depuis hier, donc littéralement les gens n'ont pas le droit d'aller à l'école. Et il y a aussi ce qu'ils appellent le plan blanc dans les hôpitaux. C'est-à-dire que toutes les opérations qui ne sont pas urgentes, donc bien sûr, leur notion d'urgence, c'est toujours la même chose, quoi, sont annulées. Donc, et en plus, les pharmacies, elles, disent qu'elles ne traitent plus les urgences. Donc je vous laisse imaginer un peu ce que ça engendre dans toute une île, ce genre de répression globalisée sur l'entièreté des activités d'une population et sur le fait de se soigner, de pouvoir aller à l'école. C'est une globalité qui est quand même très 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 flippante. Voilà.
Et cette répression, elle est aussi largement menée par les keufs et en particulier par les CRS-8. Et c'est pas anodin en fait que les CRS soient là en Martinique, parce qu'en fait ils n'étaient pas sur l'île depuis 1959. Parce qu'en 1959, ce qui s'est passé, c'est que il y a ce qu'on appelle le mouvement de décembre noir, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand mouvement populaire après un accident de voiture entre un Martiniquais noir et un métropolitain blanc qui avait vraiment révolté et soulevé les gens. Ce mouvement, il avait été très, très, très durement réprimé par les CRS, au point que ces CRS avaient tué trois Martiniquais, donc trois jeunes Martiniquais de 15, 19 et 20 ans. et donc ce qui avait bien sûr entraîné d'autant plus de mobilisation. Suite à ça, le Conseil général de la Martinique avait décidé qu'il n'y aurait plus aucun CRS sur l'île. Donc ça veut dire que, en fait, depuis 1959, donc ça date, les CRS n'étaient pas présents. Et donc là, c'est le 21 septembre 2024 que Macron et Barnier ont décidé de renvoyer les CRS là-bas, quand on sait ce que ça représente sur l'île, et donc pour faire une répression très violente.
Et notamment les CRS 8, qui du coup sont des CRS qui sont spécialisés dans ce qu'ils appellent les violences urbaines et les émeutes, donc qui sont plus armés, plus violents, et qui ont des modalités d'intervention qui sont plus rapides, parce que les CRS sont quand même globalement assez lents, et que du coup, là, en gros, ils peuvent se déployer plus vite sur des points de blocage notamment, et ils sont formés que à ça. Je le répète encore une fois, mais ils sont plus armés et encore plus violents. Voilà. C'est donc les CRS 8, pour un peu recontextualiser, ça a été créé en 2021 par Darmanin, et c'est déployé pour la première fois à Mayotte pour l'opération Mambouchou. Du coup, ce qui est quand même, en gros, ce qui s'est passé là récemment, donc à l'aéroport de Lamatin, c'est qu'en gros, il y a eu un peu la nouvelle qui a tourné, qu'il y avait donc une nouvelle compagnie de CRS 8 qui allait arriver. Et il y a beaucoup de manifestants qui sont arrivés, qui ont bloqué l'aéroport pour pas que les CRS arrivent. Parce que tout cet historique que Inès vient de vous rappeler et tout, pour que les CRS ne puissent pas arriver sur le territoire. Et donc, ils ont quand même, c'est une petite victoire. Alors maintenant, ils mitoient un peu, ils disent non, mais en vrai, ils n'étaient pas dans les avions, ils n'allaient pas arriver. Bon, on ne saura jamais la finalité de l'histoire, parce que voilà. Mais en tout cas, il y a 3 avions qui ont été détournés jusqu'en Guadeloupe. Et en tout cas, on n'a pas entendu de reportage sur les pauvres vacanciers qui ont été détournés jusqu'en Guadeloupe. Donc peut-être que c'était en fait vraiment des CRS, quoi. Voilà. Et du coup, cette mobilisation à l'aéroport, c'est une victoire, il y a quand même eu 8 arrestations. Et 33, donc dans la nuit dernière, donc la nuit d'aujourd'hui à hier. Et aussi, on voulait vous dire que demain, à 14h à Répu, il y a un rassemblement de soutien à la Martinique. Voilà, ça c'est cool d'aller là-bas. Voilà.
Ouais. Du coup, on arrive à la fin de l'émission. Je voulais rajouter un tout petit truc à l'agenda. On vous avait parlé dans une émission de septembre, je ne sais plus laquelle, de Doriano qui est mort à la prison de la Talaudière à Saint-Étienne début septembre. Et du coup, on voulait annoncer, même si c'est un peu dernière minute, que demain, le samedi 12 octobre à 9h30, il va y avoir un lâcher de ballon devant la prison de la Talaudière en mémoire à Doriano, et que les proches invitent tous ceux qui souhaitent les accompagner à venir. Donc s'il y a des gens qui nous entendent, n'hésitez pas à les rejoindre et à leur rapporter du soutien et tout.
Et on avait des petits big ups.
Alors, big up à Aurélie, Blanche, Redouane, Kémy, l'infâme, Nathan, Sako, Bambina, et aux prisonniers de Fleury, pardon, et à tous les prisonnières et prisonniers et leurs proches.
Ouais, un gros big up à tous les gars de Fleury qui nous écoutent et tout, ça fait un peu plaisir de savoir écouter à l'intérieur.
C'est clair.
Et on souhaite plein de force à tous les prisonniers et toutes les prisonnières de France. La rediffusion, je crois que c'est mercredi matin à 8h30. Et voilà, à la semaine prochaine, force, courage et détermination.
Et il n'y a pas d'arrangement.
On baise les matons, les serrures et les menottes. Prends note, tu me diras à chacun d'assumer, hein. On s'assoit pas un poker si on n'a pas de quoi suivre. Des années inactives comme activité principale, couper ses oignons en tranches fines. Socialement un plus pénible, rien à se mettre sous les dents à part une roulée, une gitane de maïs ou son pénis. Le cash tombe dans les rations, relation zéro avec les matons. On aimerait frapper un pao, les voir finir au service de réanimation. 10 ans sans courrier, 10 ans d'isolement. Derrière les murs, aucun espoir pour les déballeuses de comptoir. Personne n'est arrivé sur terre naturellement. Dépendant des aides sociales, la cam, personne n'est né. Comment on arrive là, ce qu'on saucissonne. Des coups de perceuse dans les genoux, des joues, les caméras de surveillance. Puis grave du bicarbonate, le soude. Plus de 40, plus de meurtres, plus de cris pour encore plus de sous. Venez calmer à plus de 4 avec vos gros chats. J'ai des potos qui bousillent la vie, même avec un épluche patate. Pour insérer les tollards que dalle. Des deux côtés du mur, une fois sorti, repart à zéro. Comme passeur dans Jacques, on déstupe la mule. Trouve refuge auprès du Seigneur, dans les filières. Avant de bosser au Hebs pour 200 euros comme auxiliaire. T'es un dur, toi non, du système, t'es qu'un pantin. On t'a tous vu chialer dans le box. Comme Bertrand Cantat, nouvelle ère jacteuse. Bonhommes se font rares, se recyclent dans le vol d'objets d'art. Arrache les distributeurs à la pelleteuse. Filoche les dapistes, 8 du mat, Tu te lèves, t'as ta piste, c'est un tuyau percé, alors t'attends qu'on t'assiste. Respecté au pas selon l'étage, le code postal. Pour espérer être tranquille, passe un coup de fil au portable. Tout le monde dira que le meilleur, la prison, c'est le bon de sortie. Évite la case, ça laisse des cicatrices. Les mecs bizarroïdes, les chiottes bouchées, les hémorroïdes, toujours la même chose. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Depuis deux semaines, pareillement vêtu. Un coup de pouce d'autocodétenu, des cauchemars, tout âge confondu. Tu ressors bossu, tu ressors tendu. Les fouilles la nuit, les barbelés autour de l'esprit. Ta fenêtre, c'est la télévision. La nuit, t'entends chaler des lopettes. Pendant que tu te branches au Jennifer Lopez. Évacue ta rage dans des salles de sport. Tu te prépares au jour où on dira tu sors. Un parloir, un morceau de miroir, un big rasoir. Un minimum de tenue à la mama qui vient de voir. Quelques moments tendres, une décharge d'émotions que seul un dollar peut comprendre. Purge sa peine, coupé du monde assume. Aucune chance d'évasion, les suites se groupent pour les plus faibles suicides. Le juge t'indique de la fermer, de t'asseoir. Encore heureux que les prisons soient des passoires. Connard, cambrioleur à n'importe quelle heure. Meurtrier d'un soir, voyou notoire, futé au barbare. Trop vite un casse-tour, mal grosse brigade, garde avec jugement le verdict. 10-15 ans dans les dents, arrivant brigand, parlant sauvage, véridique. Vécu par les poteaux, l'entourage, ils rentrent, sortent, mais savent pas à quel âge. Mineur adolescent, trafiquant récent, les réseaux qui peuvent vouloir. Les bruits de porte qui résonnent dans le couloir, c'est mitard, c'est hardcore, c'est la prison. Le juge t'indique de la fermer, de t'asseoir. Encore heureux que les prisons soient des passoires, connard. Cambrioleur à n'importe quelle heure, meurtrier d'un soir, voyou notoire, futé ou barbare.